de l'art, Jeanne-Marie.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Cette semaine avec un invité que j'ai beaucoup de chance de recevoir et que je vais vous présenter. Il s'agit de Charles Duret. Bonjour Charles.
Bonjour Jeanne-Marie.
Alors je dis que j'ai beaucoup de chance de vous recevoir aujourd'hui dans la mesure où vous êtes un homme très occupé, vous travaillez beaucoup. Vous êtes, comment dois-je vous présenter ? Vous êtes un créateur, on va dire, de bijoux sculpture.
Exactement.
Ça vous va cette présentation ?
Oui, créateur et fabricant de bijoux sculpture.
Alors Charles, vous êtes installé à Dôme.
Tout à fait, sur la colline.
Sur la colline, on va parler de votre ravissante boutique. Mais avant, on va parler de vous et de votre parcours riche et atypique quand même. On va dire que vous avez commencé par des études de gémologie.
Oui, absolument.
Pourquoi ? C'était une passion, tout petit, la pierre, la nature.
J'ai toujours été attiré par les choses de l'art.
Oui.
Je trouve que dans les pierres, il y a une profondeur, une richesse qui est tout à fait séduisante. Et donc les choses de la vie ont fait qu'en effet, j'ai fait des études de gémologie. Mais compte tenu du coup des éléments, je n'ai pas pu perdurer comme je l'aurais souhaité dans cette voie. Donc j'ai bifurqué sur les matières naturelles,
oui,
les bois précieux, les nacres, les coraux, les cornes, etc.
Oui.
Et en fait, j'ai créé mon entreprise en 1983, en mars 83, donc je viens de fêter les 30 ans de l'entreprise. Voilà.
Mais il faut dire qu'avant, vous aviez travaillé Place Vendôme à Paris.
Tout
donc
à
c'est
fait.
Quand même un endroit symbolique. Enfin, là, on dit Place Vendôme, on a des pépites dans les yeux parce que c'est vraiment l'endroit du beau, du luxe. Donc vous aviez travaillé là.
J'ai travaillé là pour commercialiser les pierres.
Oui.
Mais c'est un secteur d'activité qui est quand même très difficile où il faut avoir des moyens pécuniaires assez colossaux. Voilà. Mm-hmm. Chose que je n'avais pas. Mais bon, je me suis quand même fait plaisir et c'était une très belle expérience.
Et donc après, vous avez créé votre entreprise avec quelle idée en tête ?
L'idée de me faire plaisir. Quand vous êtes dans la joaillerie, c'est assez réducteur dans les volumes, au niveau de la création, puisque tout a un coût. Et moi, j'aime la mode, j'aime la femme, et j'avais envie de faire des accessoires de mode qui soient à ma sensibilité, puis qui puissent me permettre de me réaliser. Donc, j'ai trouvé par le biais des matières naturelles qui me font vibrer. Donc, je vous disais, les bois précieux, ou les nacres, ou les coraux, ou la corne, ou l'os, enfin, toutes ces choses qui sont extraordinaires. J'ai trouvé une manière de faire des créations qui j'espérais, allaient se vendre, bien sûr. Voilà.
Alors, ces matières premières, on ne les trouve pas forcément en France. Je crois que vous avez énormément voyagé.
Oui, absolument. Donc, c'est pour ça qu'en fait, pour ces matières premières, je me suis installé en fait en Asie du Sud-Est. J'étais basé aux Philippines, de là je rayonnais dans toute la région. J'avais des gens qui allaient me pêcher du corail, qui me faisaient des choses comme ça. Et j'avais des ateliers sur place qui taillaient toutes les matières que j'importais sur Paris et que je réexportais. J'ai réexporté à la fin un peu plus de 63% de mon chiffre à l'export. Voilà.
Vous gardez un bon souvenir de cette période hors de France ?
Ah oui.
Une belle expérience, j'imagine ?
Une très belle expérience, parce que c'est quand vous avez 30 ans de moins, partir à l'autre bout du monde. Je ne connaissais rien à l'entreprise, je ne connaissais rien à l'import, je ne connaissais rien même au monde de la mode et du bijou, si ce n'est par ses composantes, les pierres. Mm-hmm. Et de se retrouver propulsé en tant qu'autodidacte, je ne parlais pas anglais, rien. Donc c'était vraiment
une aventure totale.
Une aventure totale.
D'accord, ouais.
Donc voilà, j'ai créé une entreprise et cette entreprise, il a fallu se mettre à la faire vivre. Donc cela étant, j'ai eu beaucoup de chance puisque mon premier client était André Courrèges. Ensuite, j'ai travaillé pour Givenchy, pour Beretta, pour Georges Resch, pour Rodier, enfin toute la couture parisienne.
Ça donne une idée de la qualité de votre travail parce que pour être remarqué par les maisons de haute couture, il faut quand même être au top niveau.
En fait, ça a été un choix. Vous savez, dans toute société économique, vous pouvez choisir avoir une politique de prix ou une politique de marge. Si vous faites une politique de prix, il va falloir faire des gros volumes sur lesquels vous gagnerez peu.
Oui.
Faire une politique de marge, vous allez gagner plus sur une pièce, mais ça va vous permettre de l'affiner, d'apporter vraiment quelque chose qui se distingue de la concurrence éventuelle. Or, à l'époque, il y avait de la concurrence, mais j'étais quand même, en termes qualitatifs, j'étais quand même au-dessus du panier, si je peux me permettre, modestement.
Je vous crois sur parole. Donc après, vous êtes rentré en France, pour comprendre un petit peu votre parcours, vous êtes rentré en France, vous avez créé donc en France une société, une autre société. Et là, qu'est-ce qui s'est passé là?
Alors, donc moi, les matières naturelles, j'ai démarré en 83 et en 91, il y a eu la guerre du Golfe.
Oui.
Donc, on a oublié, mais c'était une période extrêmement difficile. Donc, je me suis séparé de tout ce que j'avais aux Philippines, la maison, les ateliers, etc. Et je suis rentré à Paris où j'avais une boutique de détail. Et là, j'ai fait un petit peu le dos rond pendant 2 ans. Et en 1993, j'ai redémarré mon activité de gros, mais avec les métaux basse fusion. J'ai
Alors,
fait.
mais je vous coupe, mais
Oui.
métaux basse fusion, pour les profanes et néophytes que nous sommes, c'est...
Alors, en fait, moi, la base que j'utilise pour mes bijoux, c'est de l'étain,
Oui.
qui va être poncé, poli à la main pour avoir la brillance des métaux,
Oui.
et ensuite, sur une sous-couche de bronze, soit ce sera doré à l'or fin 24 carats, c'est-à-dire que je plonge dans les bains d'or pur sur cette sous-couche de bronze, ou plaqué à argent, mais en plus l'argent est verni, ça évite l'oxydation naturelle de l'argent, comme ça la femme n'a pas de noir sur les vêtements, sur la peau, etc. Ça permet d'avoir quelque chose qui vit très bien. Qui plus est, bien sûr, c'est exempt de nickel, de
Donc pas
toute
d'allergie.
substance énergisante, voilà.
Donc vous avez découvert le travail du métal.
Oui, je l'ai découvert de manière un peu bizarre, c'est-à-dire que il y a un salon à Paris qui s'appelle Première Classe, qui est un salon haut de gamme, et j'avais entendu dire que, en fait, en participant à ce salon, on pouvait avoir une aide de la Chambre des métiers. Et un jour, je suis passé là pour me renseigner, savoir quelles pourraient être les aides, etc. Mais j'ai toujours pas attaqué le métal. Et je suis sorti de cet entretien inscrit pour un salon qui commençait 15 jours plus tard. Voilà, je n'avais pas une pièce,
Oui,
je n'avais rien,
c'est un challenge inconscience.
un challenge inconscient, et je m'étais constitué un atelier, j'étais à Bougrenelle, un centre commercial qui est à Paris, en face des maisons de la radio, et j'avais dans les sous-sols, en dessous les rampes d'accès des voitures, je m'étais constitué un atelier, quand la Seine débordait, du reste, il fallait que je marche sur les palettes pour patauger dans l'eau, et là j'ai passé 15 jours et nuits à créer mes bases de collection,
Oui.
mais dans des conditions tout à fait rocambolesques. Je n'avais pas d'anneaux, par exemple, quand vous faites des éléments, il vous faut des anneaux derrière pour les fixer, pour les maintenir ensemble. Eh bien, je prenais du fil électrique que je dénudais et à la pince, je faisais des anneaux. Voilà, maintenant, j'achète mes anneaux au
Oui,
kilo. Voilà.
oui, oui.
Mais enfin, c'était un peu kamikaze de s'inscrire pour un salon alors qu'il n'y avait pas une seule pièce.
Mais le fait est, c'est que ça a marché et que pris dans l'euphorie et l'engrenage, donc vous avez poursuivi votre chemin et vous avez quitté Paris après pour venir vous installer donc
Voilà.
ici en Dordogne.
Alors, en 98, un de mes petits frères qui habitait à Sarlat me téléphone en me disant qu'il fallait que je vienne à faire une saison. Il m'avait trouvé une boutique à Bénac, bien placée, pas chère, me disait-il, etc. Et ben, je me suis dit, on va virer les queues de stock. Ça fera une expérience à mon. Ça fera de la trésorerie. Puis, je venais d'engager mon plus jeune fils, donc je me suis dit, ça lui ferait une expérience. Donc, 98, une saison à Bénac. 99, on a réitéré, mais à Dôme.
Oui.
Et mon épouse, qui était dans un autre secteur d'activité, est venue me rejoindre. Et il y avait sur un volet de la maison de la Monnaie un tout petit panneau à vendre avec un téléphone. Et puis, en plaisantant, je dis à mon épouse, tu vois, on achète la maison, on ouvre les arcades, qui étaient fermées à l'époque,
Oui.
on ouvre les arcades et on fait une boutique. Et puis, en plaisantant, elle dit, et puis moi, à l'étage, je fais des chambres d'hôtes, enfin, tous les délires qu'on a pu avoir
Oui.
en vacances un jour ou l'autre. Et puis comme ça me titillait, de fil en aiguille, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé, et donc le 27 décembre 1999, jour mémorable de la tempête,
Oui.
nous devenions propriétaires de la plus vieille maison du village, puisque c'est la maison de la Monnaie du Roi, et elle date de 1282, et c'est un très très bel écrin pour
Ah
les
oui,
bijoux.
faut aller voir votre boutique parce que non seulement ce que vous présentez, c'est vraiment magnifique, mais vous êtes dans un cadre. Je veux dire, il y a une alliance parfaite entre votre travail et le lieu dans lequel vous êtes. Vous avez fait réussi cette osmose en fait du beau.
Oui.
Et puis il y a une âme en plus.
Oui, et il y a cette alliance de l'ancien et puis du moderne,
Du
des
moderne, oui.
créatifs, mais on a réouvert les arcades qui étaient obstruées, je vous le disais, donc on a redonné à ce patrimoine sa vision d'antan. Mm-hmm. On a des grandes baies vitrées qui nous rentrent beaucoup de lumière. Et c'est un bâtiment qui est unique. Et il a la chance, nous avons la chance qu'il soit sur la place publique.
Vous êtes effectivement très, très bien placé. Alors, au niveau de la création, Charles, de vos bijoux, comment travaillez-vous ? Parce que vous avez des collections différentes, dans des esprits différents. Peut-être un fil rouge, j'allais dire, entre chaque collection, la nature peut-être ?
Absolument, la nature.
C'est quelque chose qu'on retrouve chez vous.
Voilà, la nature et ma muse qui est ma femme. Voilà.
C'est joli.
Voilà, et en fait, en tant qu'autodidacte, ma façon de travailler, d'abord je ne fais pas de dessin.
Vous partez comme ça, sans croquis.
Je vais sculpter directement dans la matière, donc je ne fais pas de dessin.
Mais pardon Charles, est-ce que dans la tête, vous avez, si vous ne faites pas de dessin, si vous ne portez pas sur le papier votre projet, est-ce que vous l'avez quand même dans un petit coin de la tête ?
Il y a sûrement un petit quelque chose qui fait que j'ai envie de prendre la matière et de la travailler, mais au fur et à mesure que je la travaille, c'est elle qui va se révéler à moi, qui va me dire, tiens, tu devrais aller dans cette direction ou dans celle-là. Et c'est pour ça que parfois, bah, c'est des cul-de-sac et on balance dans un coin et ça ne sort pas, parce qu'il y a pas, on n'a pas un bouton sur lequel on appuie, sur lequel il y a marqué création. Et parfois, les journées sont trop courtes et il y a beaucoup trop de choses à sortir. Je ne fais pas de dessin, je ne fais pas de cire pour faire une cire perdue. Je travaille beaucoup donc avec l'étain, qui est un métal basse fusion, comme je vous le disais tout à l'heure. Et à l'aide de mon fer à souder, je vais pouvoir très facilement ou apporter de la matière ou en retirer. Et ensuite, quand je vais poncer, polir, je vais avoir la brillance du polissage qui apparaît, avec dans les creux toute la pâte à polir. Et ça va me donner, sur le plan visuel, un petit peu l'aspect d'un bijou argenté avec une patine ancienne. Et je m'applique, en fait, à déterminer des lignes de force quand je travaille. Je vais travailler la matière et à un moment, il y a ce que je vais considérer être une ligne de force. Quand j'ai déterminé cette ligne de force, je vais faire une empreinte pour conserver cela.
Oui.
Et partant de là, je vais m'appliquer à faire des collections avec des colliers, des bracelets, des broches, des boucles d'oreilles, etc. Et c'est un autre challenge, parce que je me rappellerai toujours un jour sur un salon prêt-à-porter à Paris, on faisait sauter beaucoup de bouchons de champagne, et j'avais pris le papier d'emballage, vous savez, doré en haut, je l'avais pris, je l'avais trituré, je l'avais mis au milieu des bijoux. C'était incroyable de voir le nombre de visiteurs qui passaient et qui allaient sur ce bijou, qui les interpellaient. Alors, ce qui veut dire, dans mon interprétation, que faire une broche, faire une pièce qui va faire une broche, c'est facile. Si partant de là, vous voulez faire une paire de boucles d'oreilles, il faut une symétrie, il faut une droite, une gauche.
Oui.
Après, un collier, c'est d'autres volumes, etc. Donc, c'est un autre challenge de faire une collection.
Et les collections, donc, elles sont par thème ?
Oui, après, je leur donne un thème, je leur donne un nom.
Oui.
Et un nom qui est, pour moi, au moins pour moi, figuratif, représentatif de quelque chose.
Comment vous déterminez qu'un tel bijou va être en or ou tel autre va être en argent ? Est-ce que c'est de votre volonté propre ou est-ce que c'est le bijou en lui-même qui va vous guider ?
Alors, en fait, de manière à satisfaire le plus de personnes possible, toutes les collections sont indifféremment or ou argent.
D'accord.
Voilà. On a d'autres coloris, comme le canon de fusil, etc., ou quand on fait du bicolore, là, il y a des contraintes techniques ou des possibilités qui s'offrent, et on va évoluer. Mais au départ, vous avez des femmes qui sont des inconditionnelles de l'or ou de l'argent, et, ou qui, en fonction de leur morphologie, leur teinte de cheveux, de peau, préféreront une couleur ou une autre. Donc, toutes les collections sont indifféremment dans les deux coloris.
Alors Charles, on va poursuivre notre conversation, mais avant, nous allons écouter le morceau de musique que vous avez choisi. Vous allez nous en dire deux mots. Ça va vous rappeler votre Brésil, celui que vous aimez tant. Qu'est-ce que vous nous avez choisi ?
Mais écoutez, j'ai choisi un disque de Maria Bethânia sur une musique de Vinicius de Moraes. Alors en fait, pour moi, le Brésil, ça a été un grand révélateur. Parce que je suis parti au Brésil en 71, c'est pareil, je ne parlais pas un mot de brésilien. Je ne savais pas si l'Amazonie, à l'époque, démarrait aux portes de Rio. Et je suis parti là-bas, une main devant, une main derrière, comme on dit élégamment. Mais c'est un pays qui est extraordinaire.
Mulher, ai, ai, mulher, sempre mulher, dê no que der. Você me abraça, me beija, me xinga, me bota mandinga, depois faz a briga, só pra ver quebrar. Mulher, sempre Você bota muita banca, infelizmente eu não sou jornal. Mulher, martírio meu, o nosso amor deu no que deu. E sendo assim, não insista, desista, vai fazendo a pista, chore um bocadinho, se esqueça de mim. Mulher, ai, ai, mulher, sempre mulher, dê no que der. Você me abraça, me beija, me xinga, me bota mandinga, depois faz a briga só pra ver quebrar. Mulher, seja leal, você bota muita banca, infelizmente eu não sou jornal. Mulher, martírio meu, o nosso amor. Sendo assim, não insista, desista, vai fazendo a pista, chore um bocadinho, se esqueça de mim, se esqueça de mim.
Charles Duret, merci Charles pour cette musique qui donne, j'allais dire, envie de danser, qui nous met le soleil au cœur.
Ah oui, et quand on a vu le Brésil, enfin moi je l'ai vu, je vous dis, la première fois en 71.
Oui.
Donc je suppose que si je retournais aujourd'hui, ce serait plus du tout le même Brésil.
Oui.
Mais c'était un pays qui est plein de bonheur, plein de promesses, et puis une musique qui est extraordinaire.
Voilà. Vous travaillez en musique ?
Ah, toujours.
Toujours ?
Je me lève, oui. Je mets la musique.
Ça vous aide, ça vous habite pour construire, pour créer ?
Absolument. Je ne peux pas vivre sans musique.
C'est compliqué de créer,
pour vous ? C'est compliqué quand on n'y arrive pas.
Oui.
Et puis maintenant, quand on a un fil conducteur, quand on a quelque chose qui sort, bah c'est très simple. Et comme je vous disais tout à l'heure, parfois, le temps passe, on se dit, bon sang, il est déjà cette heure-ci,
oui.
et on a encore mille et une choses à sortir.
Oui.
Et d'autres fois, on n'y arrive pas. J'ai des connexions que j'ai sorties récemment. Je les avais ébauchées quand j'étais sur Paris, c'est-à-dire ça fait au moins une quinzaine d'années. Je les avais mis dans un coin, et puis quand je passais, jetais un petit coup d'œil dessus, je faisais ça, bon... Et puis un jour, ben voilà, c'est sorti.
C'est sorti, ouais.
C'est sorti, et puis c'est une belle réussite.
C'est une histoire de quoi ? De maturité, de réflexion plus ou moins consciente sur le produit au fil des années ? Difficile à dire ?
C'est difficile à dire, mais on sent parfois qu'il y a quelque chose là qui est en gestation, qui est à sortir,
ouais.
Qui est à extrapoler. Mais on n'a pas trouvé nécessairement le mode...
Quoi,
le déclic pour ouais. atteindre, voilà. Et puis, vous avez des collections qui vous allez être un petit peu en avant sur la perception des gens.
Mm-hmm.
Vous allez faire des choses, je pense à certaines collections, qui marchent actuellement très très fort. Mais au début, quand elles sont sorties, elles ne rencontraient pas un écho. Et c'est un peu comme la mode,
oui.
Eh bien, où vous êtes en avance, où vous êtes en retard, où vous êtes en plein dedans. De toute manière, en ce qui me concerne, même quand j'étais en plein dedans, je n'avais pas la surface pour ramasser les retours sur investissement. Et il y avait des gens qui savaient copier beaucoup plus rapidement, c'est plus facile. Mais c'est intéressant d'être confronté à cette problématique de... Il faut chercher. De toute manière, il faut croire à ce que l'on fait, le faire dans l'enthousiasme et persévérer. La persévérance, c'est quelque chose d'absolument indispensable.
Est-ce qu'il y a un projet que vous avez, une pièce que vous aimeriez réaliser qui n'est pas encore née de vos mains, mais auquel vous pensez, quelque chose, j'allais dire, pas d'inaccessible, puisque vous avez envie de le faire, mais de très compliqué ?
Alors, je ne sais pas si c'est compliqué, mais je sais que là, j'ai les structures que je travaille, avec lesquelles je sais que j'ai des choses formidables à faire. Maintenant, le problème de ma problématique, très souvent, c'est qu'en fait, en tant que chef d'entreprise, je suis, comme tous les chefs d'entreprise, débordé de paperasse, d'informatique et autres. C'est-à-dire que le matin, j'arrive, je me mets à l'ordinateur, j'ouvre le courrier et je passe 98% de mon temps à tout faire sauf mon métier de créateur. Voilà. Et ça, c'est extrêmement
frustrant.
C'est
bien dommage tout ça.
C'est extrêmement frustrant.
Vous parliez d'ordinateur, je vais simplement ouvrir une parenthèse pour dire que vous avez donc un site internet dont on va donner l'adresse avec donc une boutique de vente en ligne. On peut voir vos créations et on peut les acheter. Je dois dire que au prorata de la qualité du travail que ça représente, je vais donner un avis qui n'engage que moi, mais vous êtes vraiment à des prix auxquels on ne s'attend pas, plus que raisonnables. L'adresse c'est www.charlesduret.fr.
.com.
Donc voilà. www.charlesduret.com. Donc on va voir votre site, on va avoir les visuels, enfin tout au moins quelques visuels des collections. Tout n'y est pas bien évidemment, puisque je crois que vous avez plus de 7000 références, hein, c'est ça ?
Plus de 2000 références.
2000 références.
Plus de 2000 références, mais on ne peut pas tout mettre sur le site, puisque ce serait une usine à gaz.
Voilà, donc, mais on a une idée donc, du travail que vous faites, des joyaux que vous créez, et on peut donc même les acheter en ligne. Le mieux, c'est quand même de venir à votre boutique.
Ah, absolument.
Mais bon, si on habite, je sais que l'émission est écoutée à l'étranger et à travers toute la France. Donc, si on est loin de Dôme, on peut commander via votre site qui est bien sûr sécurisé. Mais le mieux, c'est donc de venir à votre boutique. L'adresse, donc on vous trouve facilement à Dôme. Dôme, c'est pas si grand.
Tout à fait. Hein ? En fait, à Dôme, vous avez deux places. Vous en avez une qui est en haut de Dôme avec le point de vue. Et nous, on est sur la place qui est en contrebas.
Voilà.
Et la maison de la monnaie, il n'y en a qu'une sur la place publique, donc il n'y a pas à se tromper. Pour le site, il y a une chose qui est importante que j'ai essayé de faire, compte tenu du fait que mes bijoux sont quand même particuliers, et j'aime les beaux accessoires de mode. Au lieu de ne faire des photos que des bijoux, j'ai essayé de faire également, chaque fois que c'était possible, des bijoux portés par un modèle, ce qui nous donne une échelle de grandeur et ce qui donne un visuel qui met le bijou en situation et qui est beaucoup plus agréable.
Exactement comme lorsqu'on regarde un catalogue de mode, mis en situation, le bijou prend, j'allais dire, toute sa valeur et toute sa beauté. Donc, votre boutique est ouverte tous les jours ?
Alors, nous sommes ouverts 7 jours sur 7, du mois d'avril à la mi-novembre, 7 jours sur 7, de 10h du matin à 19h30, et ça, je dirais que c'est le minimum syndical, puisque en été, on va ouvrir plus tôt et on peut faire des nocturnes jusqu'à beaucoup plus tard. L'hiver, on est toujours sur place, puisqu'on a la fonderie, on a les ateliers qui sont sur place.
Oui.
Par contre, comme il n'y a plus personne dans les rues, on ne va pas user de l'électricité, chauffer à l'extérieur, mais un petit coup de téléphone, on est là et on ouvre la porte avec grand plaisir. Voilà.
Combien de collections vous créez par an ? Parce que vous avez beaucoup de choix quand même.
Oui, alors c'est difficile à répondre parce qu'une année ne ressemble pas nécessairement à l'autre. Par contre, sans même faire de nouvelles collections, les collections, je les fais évoluer. C'est-à-dire que j'ai l'avantage par rapport à nombre de mes confrères d'avoir en effet cette boutique de détail qui me permet d'être en contact direct avec l'utilisatrice. Chaque fois que j'ai des remontées d'informations, eh bien, ça va me permettre de les mettre en application quand je vais à l'atelier. Donc, je vais faire évoluer les collections en fonction d'une nouvelle inspiration ou d'une remontée d'informations que j'aurai eue par l'acheteuse, par la femme qui se présente. Voilà.
Alors, des collections magnifiques, des collections dans lesquelles on va pouvoir retrouver beaucoup d'originalité. J'aime personnellement notamment beaucoup cette espèce d'oppositionnisme que vous faites entre le lisse et les reliefs. Je trouve ça magnifique. Il y a une âme dans vos bijoux, Charles.
Oui, je vous remercie, ça me touche énormément. Alors ça, c'est une collection que j'ai appelée Fusion.
Ouais.
Et en effet, j'aime beaucoup les oppositions d'aspect de surface. Dans cette surface travaillée que vous évoquez, eh bien, on peut y voir ou du minéral ou du végétal en fonction de l'œil, du regard. Et en opposition, on a cette surface qui est lisse, qui est un polymiroir qui est fait à la main, qui demande énormément de travail. Et l'opposition des deux, pour moi, c'est un choc, ça interpelle et ça permet d'avoir des bijoux qu'on ne va pas trouver à tous les coins de rue, d'une part, mais qui, d'un autre côté, sont également extrêmement intemporels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans 5 ans, dans 20 ans, je crois que ce sont des bijoux qui auront toujours la même allure, qui auront toujours la même originalité. c'est pas le bijou, il fait une saison et c'est
fait.
Fini, voilà.
Intemporel. J'ai envie de conclure en disant, Charles, qu'au bout de vos doigts, vous avez l'élégance.
Je vous remercie.
Et on va dire à nos amis, donc rappeler que votre boutique est à Dôme, que vous avez un site internet, charlesduret.com. Donc je vous engage à aller voir en première approche et visuelle, et après de vous déplacer donc dans cette boutique. Je vous remercie mille fois d'être venu dans les studios d'RVB, Charles, pour nous parler de vos créations. On va vous souhaiter un bel été.
Eh bien, merci Jeanne-Marie, et puis que tous les auditeurs sachent que quand ils viendront, ils seront les bienvenus. Voilà.
On en est persuadés. Merci pour votre gentillesse et surtout pour votre talent, Charles.
Et à bientôt, merci.
À bientôt, au revoir.
C'était Les Coulisses de l'Art avec Jeanne-Marie sur RVB.